Laudetur Jesus Christus.
Réunion en visioconférence des dirigeants des 27. Aujourd'hui, un accord sur l'exploitation des minerais ukrainiens se dessine entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Les détails depuis Kiev en début de ce journal. Après Emmanuel Macron, c'est au tour du Premier ministre britannique de se rendre à la Maison Blanche. Avant de s'envoler pour Washington, Keir Starmer a annoncé une hausse des dépenses de défense britannique inédite depuis la fin de la guerre froide. La sécurité européenne au cœur des défis du prochain gouvernement allemand. C'est pourquoi le vainqueur des élections législatives, Friedrich Merz, souhaite former au plus vite une grande coalition. Décryptage dans notre dossier à suivre. Dans ce journal, nous irons également en Syrie faire le bilan de la conférence de dialogue national qui s'est achevée hier à Damas, mais aussi au Panama, nouveau pont migratoire des États-Unis où les conditions de transit des migrants expulsés inquiètent les organisations de défense des droits de l'homme.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonjour à tous, mais avant de partir faire le tour du monde, on s'arrête un instant à l'hôpital Gemelli à Rome, où le pape François est hospitalisé depuis maintenant 13 jours. Le Vatican annonce une nouvelle nuit tranquille pour le Saint-Père, dont les conditions de santé demeurent critiques, mais stables selon la salle de presse du Saint-Siège. Kiev intensifie ses attaques aériennes contre les installations énergétiques et militaires en territoire russe. La Russie annonce ce matin avoir abattu 128 drones ukrainiens au-dessus des différentes régions russes et de la Crimée annexée. Parallèlement, Kiev et Washington pourraient bien avoir trouvé un terrain d'entente sur l'exploitation des minerais ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky a accepté les termes d'un accord voulu par Donald Trump qui donnerait accès aux riches ressources minières du pays en guerre afin de compenser les milliards de dollars d'aide versés par l'administration Biden. À Kiev, les précisions de Bastien Bory.
L'Ukraine concentre 5% des ressources minières mondiales mais ne se place qu'en 40e position des pays producteurs de minerais. Kiev a donc un potentiel en la matière largement inexploité, situé en grande partie dans le Donbass, pris d'assaut par les troupes russes. Sans compter les autres minerais critiques dont dispose le sous-sol ukrainien, 350 milliards de dollars de titane et de lithium se trouveraient en territoire occupé selon les autorités, des composants essentiels pour l'industrie aéronautique, automobile, chimique, militaire et nucléaire mondiale. En plus des terres rares et des hydrocarbures également présentes en Ukraine, Washington demande pas moins de 50% des revenus générés par le secteur des ressources naturelles d'un pays en partie ravagé et qui entame sa 4e année de guerre. Pas de quoi faire sourire la population, mais Volodymyr Zelensky, lui, est soucieux de garder la confiance de l'Occident. Il laisse donc entrevoir la possibilité de céder quelques pouces de terrain aux Américains en échange de la paix et de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Mais pas sûr que Donald Trump se montre conciliant, lui qui entend récupérer le montant de l'aide fournie à Kiev par Joe Biden et qui veut diversifier les sources d'approvisionnement des États-Unis pour contourner le monopole chinois sur les matières premières. Bastien Bory à Kiev pour Radio Vatican.
Donald Trump qui a fait savoir hier que Volodymyr Zelensky pourrait se rendre dès ce vendredi à Washington pour concrétiser un tel accord. Mais avant sa signature, les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne doivent se réunir aujourd'hui par visioconférence, notamment pour faire le bilan de l'échange en début de semaine entre Emmanuel Macron et le président américain. Après Paris, c'est le tour de Londres de tenter d'obtenir des garanties de sécurité sur le dossier ukrainien de la part de Washington. Le Premier ministre britannique Keir Starmer est attendu ce jeudi dans la capitale américaine. Et c'est dans ce contexte qu'il a annoncé hier dans un discours surprise au Parlement que le Royaume-Uni porterait le budget de la défense à 2,5% du PIB en 2027 contre 2,3% actuellement. C'est la plus forte augmentation des dépenses de défense depuis la fin de la guerre froide. Les précisions de Laura Calmus à Londres.
Difficile de voir l'annonce du Premier ministre britannique autrement que comme une réponse directe aux déclarations de Donald Trump, qui ne cesse d'appeler les Européens à accroître leur contribution à l'OTAN. Près de 16 milliards d'euros supplémentaires par an pour le budget de la défense, venant s'ajouter aux 72 milliards actuels. Le Royaume-Uni a donc trouvé sa place, hors de l'Union européenne mais proche géographiquement du continent. Le pays joue sur les deux tableaux pour s'imposer comme facilitateur entre les Américains et les Européens sur l'Ukraine. La visite de Keir Starmer à Washington sera donc le plus grand test diplomatique à ce jour pour le Premier ministre. Il devra concilier les intérêts sécuritaires et économiques de son pays, tout en maintenant une relation privilégiée avec le président américain. Le Premier ministre britannique a tout de même rappelé qu'il ne pouvait pas y avoir de négociations sur l'Ukraine sans l'Ukraine.
Londres, Laura Kalmus, Radio Vatican.
Le ministre de la Défense américain s'est rendu hier à Guantanamo, enclave américaine sur la côte sud-est de Cuba, connue pour sa prison militaire ouverte après les attentats du 11 septembre 2001. Donald Trump souhaite y créer, dans cette zone de non-droit, un centre géant de rétention pour 30 000 migrants. Une autre zone de non-droit semble d'ailleurs voir le jour au Panama, nouveau pont migratoire des États-Unis. Près de 300 migrants expulsés par l'administration Trump et originaires du Moyen-Orient ou encore de pays d'Asie ont été enfermés dans un hôtel de la ville de Panama dans des conditions de transit inquiétantes. La correspondance régionale de William Gazo.
Aidez-nous, sauvez-nous s'il vous plaît. Ces inquiétants messages écrits sur des feuilles de papier s'affichaient ces derniers jours aux fenêtres de l'hôtel Décapolis de la ville de Panama. Les silhouettes qui les tenaient étaient celles des quelques 300 migrants expulsés des États-Unis vers le pays d'Amérique centrale. Originaires d'Iran, d'Afghanistan ou d'autres pays d'Asie, ces premiers indésirables de l'Amérique trumpiste sont arrivés mi-février au Panama en attendant d'être rapatriés dans leur pays. Faute d'accord avec les pays d'origine des migrants, l'administration Trump se sert de son allié latino-américain pour mettre en place sa politique migratoire restrictive. 101 ont même déjà été rapatriés selon le ministre de la Sécurité panaméen, Frank Abrego. Reste que leurs conditions d'accueil interrogent, l'établissement est gardé par des militaires lourdement armés, tandis que les migrants n'ont pas le droit d'en sortir ni de communiquer avec l'extérieur. Le New York Times, qui a pu entrer en contact avec certains d'entre eux, rapporte même que leurs passeports et leurs téléphones portables auraient été confisqués. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent des détentions illégales, des accusations niées par le gouvernement panaméen qui n'a toujours pas détaillé le cadre légal qui sous-tend la procédure. Une centaine de migrants refusent toujours d'être renvoyés chez eux, et pour cause, certains sont menacés dans leur pays d'origine. Bogota, William Gazo. Pour Radio Vatican.
Direction le Proche-Orient à présent, où un accord a été trouvé par les médiateurs dans le conflit entre Israël et le Hamas. Il doit permettre la libération dans les prochaines 24 heures de 620 détenus palestiniens en échange des corps de 4 otages israéliens, dont celui du franco-israélien Oad Yahalomi. La remise des corps se fera sans cérémonial ni mise en scène de la part du Hamas, comme celle de la semaine dernière, qui ont profondément heurté les Israéliens et provoqué la suspension des libérations des prisonniers palestiniens. Par ailleurs, les pourparlers pour la deuxième phase du cessez-le-feu doivent commencer prochainement à Doha ou au Caire, assure la médiation américaine. La première phase, qui a débuté le 19 janvier, expire ce samedi 1er mars. L'avenir de la Syrie se dessine près de 3 mois après la chute de Bachar el-Assad. Une conférence de dialogue national s'est tenue à Damas. Le président par intérim Ahmad al-Sharei a réaffirmé l'engagement de l'État à maintenir le monopole des armes, soulignant l'importance de l'unité nationale. Cette conférence, marquée par l'absence des Kurdes et de leurs forces, constitue la première étape d'un processus de réconciliation visant à redéfinir la Syrie après des années de guerre civile. Reportage signé Mohamed Erami.
Avec un taux de participation de 97% sur 570 personnes, la conférence du dialogue national syrien s'est achevée en établissant un plan de réforme en 6 axes. Justice transitionnelle, constitution, institution, liberté, société civile et économie. Selon Hind Kaibat, membre du comité préparatoire.
Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'injustice. Ma sécurité en tant que chrétienne dépend de la sécurité de mes frères alaouites et sunnites, tout comme elle dépend de celle de tous les Syriens. Nous ne pouvons pas accepter la marginalisation d'aucun groupe ou composante nationale, car nous sommes tous les enfants de ce pays.
En revanche, certains participants, comme le doyen de la faculté des sciences politiques de l'université de Damas, le docteur Khalil Abdo, estime que ce n'est qu'une première étape et que le pays a encore un long chemin à parcourir.
Il y a effectivement une tentative d'imposer des diktats aux Syriens avec des modèles et des solutions préconçues. C'est pourquoi le président al-Sharaa a souligné que cette société possède ses propres spécificités et qu'il est inacceptable d'importer un système étranger pour l'appliquer aux Syriens.
Le président syrien Ahmed Sharaa a ouvert la conférence en réaffirmant son rejet de la division du pays et en refusant d'autoriser les factions à posséder des armes en dehors du cadre de l'État.
Taipei dépêche des forces au large de l'île de Taïwan en réponse à des manœuvres chinoises avec des tirs à munitions réelles dans la zone. Pékin a mobilisé 32 aéronefs et des exercices de tirs réels dans une zone à quelques 74 km du sud de l'île, a rapporté Taipei ce matin. C'est un Bundestag bien divisé qui est sorti des urnes à l'issue des législatives anticipées de dimanche dernier. Certes, les démocrates chrétiens sont arrivés en tête, mais le fait notable de ce scrutin est le résultat historique de l'extrême droite, l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne étant le deuxième parti. L'AfD devrait cependant rester dans l'opposition, le chef des conservateurs, Friedrich Merz, ayant assuré qu'il ne gouvernerait jamais avec lui. Le leader de la CDU-CSU a au contraire tendu la main au seul partenaire avec qui il peut mathématiquement former une majorité absolue, à savoir les sociaux-démocrates du chancelier sortant Olaf Scholz, qui malgré un résultat très décevant demeure incontournable. Une grande coalition, comme les a affectionnés Angela Merkel, devrait donc voir le jour, mais il est clair que Friedrich Merz est en position de force et qu'il a envie d'aller vite, tant les défis sont nombreux pour l'Allemagne. Hélène Miard de la Croix, professeure d'histoire et civilisation de l'Allemagne à Sorbonne Université à Paris, nous explique comment le démocrate chrétien peut imposer sa marque.
La seule possibilité que Friedrich Merz puisse imposer sa marque, c'est de profiter de l'urgence de la situation, du caractère relativement dramatique du contexte dans lequel se forme cette coalition, tant pour ce qui est de la situation économique, plus de 2 années de récession, que de la situation internationale, en Europe avec la guerre en Ukraine, la question du maintien d'un soutien à l'Ukraine, et surtout l'impression de voir s'effondrer la grande protection américaine qui met en péril la sécurité de l'Allemagne. Donc, tant la nécessité de faire face à la récession que celle de trouver, notamment avec les Européens, les moyens de compenser le désengagement américain est une cause suffisamment urgente et importante pour qu'elle puisse faire coaguler les deux parties et leur faire trouver rapidement au moins un espace commun de compréhension.
Dans ce contexte si particulier où les urgences se multiplie. Quelles sont les priorités de Friedrich Merz?
La priorité probablement de Friedrich Merz est de redonner aux entreprises un nouveau souffle, donc de relancer l'économie allemande qui est en récession avec, si l'on suit son programme, des allègements fiscaux pour faciliter les investissements et enrayer la spirale de fermeture de sites industriels et de destruction d'emplois. La crainte et le mécontentement qui est quand même très sensible dans la société allemande devrait amener quand même le gouvernement à essayer de à la fois servir les entreprises et en même temps veiller à ce que les bénéfices qu'on attend de l'allègement fiscal soient aussi redistribués à la population. Donc ça, c'est en matière économique. Il est fort probable que d'ici la mise en place du gouvernement, on puisse, même avec le Parlement sortant qui va siéger encore jusqu'au 25 mars, essayer de mettre un terme au frein à la dette qui est inscrit dans la Constitution afin de libérer des marges de manœuvre pour aussi faire des investissements publics, même si c'est pas tout à fait la ligne traditionnelle de la CDU, mais parce que c'est aussi une façon d'aider l'économie et là aussi de répondre au mécontentement de la population qui trouve que beaucoup de choses ne fonctionnent plus en Allemagne, que ce soit dans les infrastructures, les transports ou même la numérisation de la vie publique.
En matière de politique étrangère, il y a vraiment de possibles convergences avec ses partenaires de coalition, à savoir les sociaux-démocrates.
Il y a une des questions qui fâche, qui est la modalité du soutien à l'Ukraine, le type de matériel à donner aux Ukrainiens, des missiles de longue portée ou pas, de moyenne portée ou pas. Là, ça va vraiment faire l'objet de négociations pied à pied dans la coalition. Je pense que les sociaux-démocrates qui avaient le gouvernement sortant sont parfaitement conscients de la déflagration qu'a signifié les nouvelles prises de position de l'administration de Donald Trump. Autant on pouvait, avant ce virage et la réélection de Donald Trump du côté social-démocrate, estimer qu'il n'était pas nécessaire d'avancer plus dans les projets européens et notamment s'entendre avec les Français et les autres voisins pour coordonner les efforts envers l'Ukraine, à partir du moment où la perspective d'un soutien absolu américain s'efface, je pense que ce partenaire de coalition va aussi être prêt à suivre des idées de Friedrich Merz en matière donc de coopération européenne en matière de défense.
Interrogée par Xavier Sartre, Hélène Miard de la Croix, professeure d'histoire et de civilisation à Sorbonne Université à Paris et spécialiste de l'Allemagne, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. C'est ici que s'achève ce journal. Merci pour votre écoute. L'actualité en langue française du pape, du Vatican, de l'Église et du monde revient à 13h, heure de Rome. Belle matinée à toutes et à tous en attendant.